J'ai constaté que, malgré que Jésus habite dans nos cœurs, j'ai constaté qu'il suffit qu'il y ait un petit rythme qui... Tout de suite, nous avons comme un réveil qui vient de nos ancêtres, pas les Gaulois, mais nos ancêtres, la vieille nature. Je disais dans mon cœur, Seigneur, heureusement que tu as fait habiter en nous le Saint-Esprit. Parce qu'il, pendant que vous étiez comme ça, il disait, arrête, calme-toi, hein, doucement, doucement. Heureusement, parce qu'il sait très bien que s'il nous lâche, c'est fini. On se retrouve, voilà, parce que notre nature humaine, elle est faite ainsi. Elle aime cette ambiance, mais... Bénissons Dieu de ce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur. Et le Consolateur, c'est une personne, le Saint-Esprit, c'est une personne qui habite nos cœurs, et c'est lui qui amène la tempérance, la sobriété, c'est lui qui donne l'équilibre en toutes choses. Et je bénis son nom parce que j'ai dit, Seigneur, heureusement que le Saint-Esprit est là, parce que... Voilà. Alors, on a bien chanté... Bien-aimé, et à un moment donné, quand on chantait ce cantique, Jésus était levé et Satan est terrassé. C'est vrai, c'est une réalité parce que quand Jean, dans l'évangile de Jean, il est dit ceci, c'est qu'il est dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, vous vous souvenez de cette histoire ? Il faut, voilà, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Alors, quand nous lisons ce texte, on a l'impression que c'est juste, c'est élevé comme ça, on élève quelqu'un, on prend quelqu'un, on élève. Non, élevé sur la croix. Et là, ça change tout. Et je ne dirais pas ça nous refroidit, mais ça recentre les choses cet après-midi, parce que nous parlons de quelqu'un qui est venu, Jésus n'est pas venu comme quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il attendait. Il venait sur la terre en étant conscient qu'il allait mourir en croix. Et toute sa vie sur la terre a été une vie de renoncement, afin d'aller jusqu'à la croix. À la croix, pourquoi ? Et Jean reprend ce texte, il dit... De même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Et Moïse éleva un serpent, non pas un serpent en bois, Dieu aurait pu dire, tu fais un serpent en bois, non, d'airain. Et l'airain, c'est une matière qui est différente de l'or. Ça ressemble à de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Et l'airain, quand vous élevez l'airain dans un désert et qu'il y a le soleil, ça brille. Et Dieu dit à Moïse, parmi les peuples, s'il y en a un qui a été mordu par un serpent, justement, un serpent brûlant, parce que Dieu avait envoyé des serpents dans le désert, il avait donné ordre au serpent, comme il avait donné ordre au corbeau de nourrir Élie, vous vous souvenez ? Et c'est extraordinaire, Dieu avait mis un GPS dans le cerveau des corbeaux. Et il leur avait dit, c'était à cet endroit précis. Alors si le corbeau avait dit « Tiens, je vais aller faire un détour avant d'amener la viande et le pain à Élie », non, 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 il a été, comment on dit, programmé par Dieu pour aller à cet endroit précis pour nourrir son serviteur. Et là, Dieu disait à Moïse, Dieu a ordonné au serpent brûlant de venir et de piquer tout Israélite qui s'était rebellé contre lui. Et là, quand le serpent mordait un Israélite, il y avait comme un feu qui parcourait le corps, le venin qui était jeté dans les veines de cet homme ou de cette femme, parcourait son être, mais avec une chaleur qui brûlait son corps. Et vous voyez, tout de suite, ça nous montre l'image du péché. Le venin du péché qui coule dans nos veines, les veines de notre âme, produit justement, déjà ça nous emmène en enfer sans y être encore. Il y a une chaleur qui s'accapare de nous, de notre âme, et qui brûle notre âme avant d'être aller dans le séjour des morts et dans les flammes éternelles. Et là, ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes dans le désert qui s'étaient rebellés, s'étaient fait mordre. Et Moïse, Dieu lui dit, toute personne, ou du moins, quiconque. Et vous regarderez un peu dans ce texte-là, dans Jean 3, un peu plus bas, et c'est de là que découle ce verset, qui est le verset central, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et vous voyez, Dieu a donné à Moïse, au peuple, le serpent d'airain, élevé dans le désert. Et Dieu donne son Fils en disant quiconque, voyez, et dans Nombre, où il est relaté cette histoire, Dieu dit à Moïse, quiconque regardera vers ce serpent d'airain élevé, eh bien, sera guéri. Et vous voyez, le problème de l'être humain, c'est que l'homme refuse, vous pouvez lui présenter tout, tout ce que vous voulez, l'homme ne sera jamais satisfait. La seule chose qui peut satisfaire l'homme, qui en réalité cherche Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors nous ne pouvons pas emmener l'homme. On peut parler de Dieu pendant des milliers d'années. C'est une chose parler de Dieu, et Dieu existe. Mais parler de Jésus, il y a très peu de gens qui acceptent le nom de Jésus-Christ. Monsieur, vous croyez en Dieu? Madame, vous croyez? Oui, je crois en Dieu. Je suis croyante, oui. Et dès que vous présentez Jésus, tout de suite, les gens se referment. Pourquoi? Parce que Jésus suscite chez certaines personnes une aversion. C'est-à-dire on ne supporte pas Jésus, on supporte Dieu, parce que tout le monde croit en Dieu. Tout le monde croit en quelque chose. Mais croire en Jésus, c'est différent. Et c'est là qu'on voit que Satan a réussi à mettre un voile sur les yeux, l'intelligence des personnes, pour les empêcher de réaliser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cet après-midi, quand vous chantez « Jésus est élevé, Satan est écrasé », mais est-ce que vous le croyez vraiment? C'est pas en le croyant en bougeant. Tu le crois, tu le confesses, parce que c'est une réalité. Jésus est vainqueur. Il n'a jamais connu de défaite. Nous avons affaire avec un héros, avec le vainqueur qui est au milieu de nous. Et il n'est pas venu pour connaître de défaite, il est venu pour arracher les âmes entre les mains de l'adversaire. Gloire à Dieu. Alors cet après-midi, il est dit ceci, que quiconque regarde vers le serpent d'airain serait guéri. Alors, vous savez que dans la vie de l'homme ici-bas, quelqu'un, même quand on a Jésus-Christ dans nos vies, nous passons par des difficultés. Nous ne sommes pas épargnés. Jésus ne nous a pas dit, il n'y aura jamais de problème. Il nous a dit, voilà, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais quand on n'a pas Jésus, quand on ne connaît pas Jésus, quand Jésus n'est pas dans nos cœurs, dans nos vies, quand il n'est pas dans notre barque, nous pouvons rencontrer toutes les tempêtes qui existent dans ce monde, cancer, dépression, et je ne cite pas le reste, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous êtes quelqu'un qui est voué à la mort. C'est sûr, vous allez à la mort. Mais en traversant ce monde avec Jésus dans sa barque, mes amis, vous êtes sûrs d'arriver de l'autre côté. Alors nous rentrons directement dans Marc chapitre 4. C'était juste une entrée en matière, le petit apéro à travers. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Marc chapitre 4, vous me devancez déjà. Alors comme d'habitude, qui sont de très bonnes habitudes que nous avons prises ici, le dimanche après-midi, c'est que pour chanter, on est éveillé, et quand on prend la parole, il y a comme un espèce de chose qui arrive, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, je me souviens à l'époque quand je me tenais derrière, et quand le serviteur de Dieu chantait, alors il dit, et quand il chantait, « Je ne sais pas ce qui se passe », alors on était tous en train de bouger, et dès qu'il prenait la parole, alors des fois, j'ai même me tenu derrière parce que je sortais prendre un peu d'air pour rester éveillé. Parce que dans les choses de Dieu, mes amis, on peut passer à côté des choses. Quand Dieu parle, quand Jésus est là, ne laissez pas le sommeil prendre le dessus sur vous. Et si vous sentez, vous commencez à somnoler, vous avez la permission de vous lever, parce que dans l'église traditionnelle catholique, quand vous êtes assis, vous ne vous levez pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une toilette, c'est pour monsieur le curé. Il n'y a que lui qui a le droit d'y aller. Vous, avant de quitter la maison, vous faites chez vous. Alors ici, on est en famille, alors on se lève comme ça, tout le monde se balade. Voilà, et ça, je ne trouve pas ça normal, avec un peu d'humour. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la présence de Dieu, il y a un sérieux. Amen. Vous savez, Jésus, une fois, il s'est retrouvé dans une maison, parce que ça se passait comme ça. Et il était en train d'annoncer la parole de Dieu. La foule est venue, était là devant lui dans cette maison. Il y avait du monde. Et les gens se pressaient, ça se bousculait. À l'époque, il n'y avait pas encore le Covid, alors il y avait la proximité. Alors les gens se collaient, ils étaient là, ils étaient en sueur. Mais ils s'en fichaient de la sueur. Ce qui les intéressait, c'était ce qui sortait de la bouche de Jésus. Alors ils étaient côte à côte, ils étaient là, ils étaient comme ça. Comme des brebis affamées qui avaient faim et soif. Parce que Jésus avait une parole qui sortait de l'ordinaire. C'était pas une parole religieuse, c'était pas une parole évangélique. C'était une parole qui venait du ciel. Et les âmes à cette époque-là avaient besoin d'entendre cela. Ils étaient liés par la religion, par les traditions. Alors un homme qui arrive, qui annonce, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Ce n'était pas les pharisiens qui parlaient comme ça. La religion c'était « Viens, je vais te dépouiller et je vais te charger et tu vas rentrer chez toi chargé. » Mais Jésus, il arrive, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous... » Alors vous pensez bien, certains suivaient Jésus parce qu'ils avaient mangé le poisson et le pain en abondance. Jésus faisait des miracles. Jésus ne prévoyait pas dans la journée ce qui allait se passer. Mais quand il y avait un besoin, il répondait spontanément. Alors, j'en étais où ? Pardon ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je dis ça pour savoir si vous me suivez. Alors Jésus, quand les gens venaient à lui, les gens repartaient chargés. Alors tu penses que j'ai oublié la pensée ? Je l'ai, frère. Dans la maison, il y avait foule. Aucun de vous me l'a dit. Il y avait foule qui pressait parce qu'ils avaient faim et soif d'écouter la parole de Jésus. Et là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient dire à Jésus, il y a ta mère et tes frères qui te demandent. Alors dépêche-toi, viens. Jésus est dans une réunion, tu veux le faire sortir de la réunion pour aller s'occuper de maman et de ses frères? C'est à eux qui auraient dû être à la place ici. Ils auraient dû être au premier rang. C'est pas parce que la famille vient et te demande que tu vas bouger, tu vas laisser Jésus pour aller. Non, tu restes dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Les paroles qui sortaient de sa bouche, il y a une femme qui nous a montré que ses paroles étaient paroles de vie. Marie, au pied de Jésus, elle buvait littéralement tout ce qui sortait de la bouche de Jésus. Alléluia ! Pourquoi ? Parce que la bouche de Jésus est une bouche qui est pure. Je le répète, notre bouche est une bouche qui est souillée. L'épître de Jacques nous dit, de cette source jaillit de l'eau douce et de l'eau amère. On va bénir Dieu, alléluia! Et on sort, quelqu'un, il y a une situation, tout de suite, il y a quelque chose de mauvais qui va sortir. Vous voyez un peu? Mais Jésus, on aurait pu lui marcher sur les pieds. On lui a mis des coups, des baffes. On lui a arraché sa barbe. On l'a fouetté. Et les coups de fouet qu'on lui donnait faisaient des sillons sur son dos parce que au bout de la lanière, il y avait comme des pics qui arrachaient le dos de la personne qui était fouettée. Jésus n'a rien. Mes amis, nous avons affaire avec un être qui est quoi ? Qui est mi-homme, mi-Dieu ? Il est Dieu, mais il était homme. Les coups, il les ressentait. il les ressentait. Il sentait que ça lui faisait mal. Mais je peux vous dire de son cœur, il pouvait regarder ses bourreaux et leur dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il aurait pu dire à Dieu, mais un regard de Jésus aurait fait cet homme, ses yeux tombent en pourriture. Mais Jésus le regardait avec un regard d'amour. Imaginez-vous cette scène. On est en train de le clouer, on est en train de le fouetter, on est en train de lui mettre des coups. Jésus n'a aucun sentiment de vengeance. Il prend les coups. Il encaisse. Et pour moi, cet homme-là, c'est l'homme par excellence. De sa bouche n'est jamais sorti une parole mauvaise, quelque chose, une insulte. Mais il a accepté. Il a encaissé les coups. Il a été, comme je le disais, comme un paratonnerre. Il en a pris sur lui pour éviter que nous, nous soyons jugés par Dieu. Et les coups que cet homme Jésus a reçus, chaque coup qu'on lui a mis, c'était normalement nous qui devrions le recevoir. Parce que lui, injuste, il paye, lui juste, il paye pour les injustes. Alors quand nous chantons « Jésus est élevé », Satan est écrasé, mesurons bien avec qui nous avons affaire. Nous avons affaire avec un homme qui avait pouvoir sur les éléments. Marc chapitre 4. Vous voyez la transition que je vous mets là, d'un coup, comme ça là, hein, pour vous maintenir éveillé. Marc chapitre 4. À partir du verset 35. Vous l'avez trouvé ? Ce même jour, voilà cet homme Jésus. Voyez, je ne vous parlerai pas d'une religion, je vous parle d'une personne. Et pour que vous puissiez rencontrer cette personne, on peut vous parler de quelqu'un qui est connu, reconnu, etc. Mais quand vous rencontrez cette personne, c'est autre chose. Et cet après-midi, il faut la parole. Parce que la foi vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez vient de la parole de Jésus-Christ. Il faut que vous entendiez parler de lui pour que vous puissiez le connaître, pour que vous puissiez lui dire, Seigneur, je sais, je fais une démarche consciencieuse, je te donne mon cœur, consciemment. Pas parce qu'il y a une ambiance, pas parce qu'on te dit de le faire, parce que tu as compris que cet homme dont on t'a présenté, il n'y a pas d'autre que lui. C'est le meilleur. C'est le plus merveilleux. Alors il est dit ceci, ce même jour, Jésus, sur le soir, Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit ? Passons à l'autre bord. Il le dit à ses disciples. Alors voilà que Jésus, les disciples prennent leur bateau et puis ils traversent, ils commencent à traverser. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques qui étaient autour avec lui. Alors vous voyez, il y avait des gens quand il marchait sur la terre, ferme, qui le suivaient, il y avait des foules. Et quand il était en mer, il y avait aussi des gens qui le suivaient en barque. Vous voyez l'attraction qu'il faisait Jésus ? Les gens trouvaient des moyens de transport pour venir là où était Jésus et pour le suivre. Au verset 3, ils s'élevèrent lors de cette traversée un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Vous avez vu ? Les flots se jetaient dans la barque. Où était Jésus ? Au point qu'elle se remplissait déjà. C'est une histoire qu'on vous avait entendu prêcher des centaines de fois. Mais cet après-midi, l'Esprit de Dieu va prendre ce même texte et va toucher les cœurs. Vous dites amen à ça, frère ? Alors regardez, pourquoi ? Il y a une raison que je dis ça. Alors, un grand tourbillon se leva sur le lac pendant la traversée. Et l'eau commençait à rentrer dans la barque. Mais il nous donne une précision importante. Cet homme, Jésus-Christ, il est dit ceci au verset 38. Il dormait. C'est déjà un fait. Il ne faut pas dormir cet après-midi. Seul Jésus a le droit de dormir. Mais vous, vous n'avez pas le droit. Et je vous le dis, hein, chacun de vous doit être responsable de son frère ou de sa sœur ou de la personne qui est à côté de vous. Alors nous poursuivons. Jésus a le droit de dormir parce qu'il venait de passer une journée, mes amis. Et là, il est dit ceci, il dormait à un endroit stratégique. Pas beaucoup d'entre nous avons déjà fait de la barque. Certains qui viennent des îles ou de la côte ont déjà vu fondre la barque ou ont déjà voyagé sur un voilier ou un bateau, je ne sais pas. Eh bien là, dans cette barque-là précisément, il y a l'endroit où se trouve ce bâton qui est au milieu. On appelle ça le mât. Il y a le mât. Et il y a en arrière la poupe. Ça se trouve en arrière. Et la Bible nous dit que Jésus a été dormir là. La place stratégique, même s'il dormait, il contrôlait ce qui se passait. Ça veut dire, quand vous pensez que Jésus ne contrôle rien, il ne parle pas, il ne vous répond pas, il est au contrôle. Amen. Parce qu'il est celui qui ne dort et qui ne sommeille. Alléluia. Alors écoutez la suite de l'histoire. Il dormait à l'endroit stratégique. C'est-à-dire quand Jésus est dans la vie d'un homme, il occupe la place stratégique qui est le centre. Le centre, le milieu, le cœur. Et quand Jésus habite un cœur et que le cœur est partagé, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux, j'aime pas partager. J'aime pas les cœurs partagés, dit Dieu, parce que je suis un Dieu jaloux. Alors Jésus, dans le cœur, il veut le centre. Et c'est tout à fait normal, il le mérite. Et quand vous laissez un homme, une femme, un système, ou Satan lui-même, un marabout, je ne sais qui d'autre, quand vous laissez ces choses prendre le centre de votre cœur, c'est fini, c'est le trouble dans votre vie. Mais quand Jésus est au centre, regardez ce qui se passe. Il dormait à la poupe sur un coussin. Il y avait un coussin à cet endroit, peut-être que le responsable du bateau pouvait se mettre assis sur ce coussin. Mais lui, il dormait sur ce coussin. Ils le réveillèrent, qui ? Les disciples. Et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ils crièrent à Jésus. Alors, regardez la chose. Là, nous allons découvrir un homme que je dirais qui est le maître des éléments. Vous connaissez quelqu'un qui parle au vent, qui parle à la mer, qui s'adresse aux éléments et que les éléments lui obéissent, si ce n'est que le Créateur, si ce n'est que celui qui a créé ces choses. Allez parler au soleil, allez parler au vent, dites à la mer, taisez-vous, calme-toi. Il va dire, oui, viens, je vais te noyer. Il n'y a que celui qui a créé ces choses, qui a la clé et qui connaît comment parler. Vous me suivez ? Et là, nous rentrons dans ce texte-là. Nous voyons, et j'ai noté ceci, Jésus calme les tempêtes dans nos vies, dans vos vies. Si Jésus est dans votre vie, il va calmer la tempête. Et il va s'adresser directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Lui, il va à la source. Et regardez ce qu'il dit Jésus, un peu plus bas, au verset 39, s'étant réveillé, lui qui dormait, ne réveillez pas un lion qui dort. Et lui, c'est le lion de la tribu de Judas. Ne le dérangez pas quand il dort, parce qu'un lion que vous dérangez, il vous dévore. Et là, il va agir et il va se réveiller. Jésus se réveilla. Et regardez, s'étant réveillé, il menaça le vent. Il ne dit pas, ô vent, arrête, pluie, va-t'en, on ne veut pas du mauvais temps. Je ne fais pas de l'humour, je ne suis pas un poète. Jésus n'est pas là, s'il te plaît. Il se leva. Alléluia. Et cet après-midi, Jésus est là, il se lève et il dit à Satan, oui, je t'ai vaincu à la croix du calvaire. Là, tu peux le chanter. Il a été écrasé et j'ai été élevé. Et parce qu'il a été élevé, qu'il a pu écraser la tête de Satan. Si Jésus n'avait pas été élevé à la croix, impossible de victoire. Il fallait qu'il soit élevé. Quelqu'un qui dit, il saute et il descend et il écrase. Vous avez compris ? Élevé pour en descendant, il écrase. Alléluia ! Vous comprenez un peu mieux ? Il est élevé, il est écrasé. Comprends bien ce que tu chantes. Il dit, il s'éveilla, il menaça le vent. Voilà le maître des éléments, qu'il n'y a pas de situation, des circonstances qui peuvent arriver quand Jésus est dans ta barque qu'il ne peut pas contrôler. Il menaça le vent et dit à la mer, il parle, il menace le vent et il s'adresse à la mer. Il dit à la mer, j'ai pas entendu. Ça nous montre bien que la mer, c'est un peu l'image du péché qui nous submerge. Et Dieu sait combien le péché a privé l'homme de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Jésus sait pertinemment combien le péché a privé l'homme d'un privilège excellent qui était de demeurer constamment dans la présence de Dieu. Jésus se leva. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Et il a vaincu celui par lequel le péché est rentré, Satan lui-même. Il l'a vaincu à la croix du calvaire. Et c'est un homme victorieux. C'est un homme qui a pouvoir sur les éléments. On le voit ici. Il dit « Silence à la mer !» Et lui dit, il rajoute « Tais-toi !» La mer parle, mes amis. Le bruit des vagues, c'est comme si la mer s'adresse à nous. Et quand vous êtes au bord de la mer, qui a une tempête, une dépression tropicale, et même sur la côte normande, vous voyez les vagues immenses comme ça. Et les personnes qui étaient sur l'île de Phuket, et le tsunami, ils étaient là, tranquilles. Les enfants, et puis les éléphants qui étaient attachés quelques mètres plus bas, ont senti qu'il se passait quelque chose. Les oiseaux commençaient à voler, à se retirer vers les hauteurs. Les éléphants éclatent leurs chaînes pour partir dans les hauteurs. Et les hommes sont là. Non, 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 tout est beau, tout est merveilleux. Vous voyez, comme du temps de Noé, on ne s'inquiète pas. On se dit, bon, la vie est belle. Oh Jésus, je verrai plus tard. La vie éternelle, ouais, c'est pour les chrétiens, les gens comme ça un peu bizarres, qui vont chez les marabouts. Et quand ils ont pris pour eux, ils tombent, ils roulent par terre, ils font du simagri. C'est ça? Non. Mes amis, ce jour-là, des milliers de personnes sont mortes parce qu'il y a une vague. Ça s'appelle un tsunami qui est arrivé et qui a balayé. Les gens étaient comme ça, tétanisés, la panique. Mes amis, vous allez attendre? Vous allez attendre que le péché vous submerge? Vous allez attendre de vous encouvrer, de vous noyer dans le péché? Quand vous avez quelqu'un qui a le pouvoir de parler aux éléments, qui dit « Tais-toi, silence !» Vous n'en avez pas marre du péché, de vous faire écraser, de vivre comme ça, là, courbé, comme cette femme, pendant 18 ans? Vous n'en avez pas marre de ça? Vous avez quelqu'un qui a une autorité, un pouvoir sur les éléments. Et cet après-midi, il a le pouvoir de dire au péché, à la mort, à la dépression, aux puissances des ténèbres, « Silence !» Retire-toi. Il a pouvoir, celui qui est le maître des éléments. Allons un peu plus loin. Le verset, le chapitre 5, juste à côté. Que découvrons-nous? Encore Jésus. Que se passe-t-il? Il arrive de l'autre côté. Tout à l'heure, le pasteur Claude parlait du Gadarénien. Vous vous souvenez? Tremplin. Regardez ce qui se passe, il arrive sur ce territoire, et là, il est maître des éléments, nous l'avons vu.
Là, il devient maître des esprits. Alléluia! C'est-à-dire, il n'y a aucun esprit cet après-midi. Quand quelqu'un dit « Jésus, je te veux », qui peut encore résister à Jésus? Il peut nous résister, nous les hommes, mais pas à Jésus. Et là, Jésus se présente là, chapitre 5. Regardez, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, que se présente-t-il? Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit. Mes amis, là nous rentrons dans un autre monde. Jésus, maître des éléments, la mer, le vent, il est maître. Là, je ne connais aucun homme ici cet après-midi, ni en dehors de cette salle, qui a un pouvoir sur les puissances des ténèbres. On a tous été couchés à plat par Satan. Parce que le péché coule tous dans nos veines, je l'ai dit tout à l'heure, le serpent ancien nous a mordu, le péché, et tous, la Bible nous dit, on est tous des pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est clair et net. Alors il n'y a aucun qui peut dire, ah moi je suis juste, ah oui je fais du bien, je suis... Non. Tu es un pécheur, tu es une pécheresse. Et cet après-midi, la solution au péché, c'est la repentance et que tu te convertisses au Seigneur. Amen. Et ça, les hommes n'aiment pas trop entendre ça. Se repentir, faire demi-tour et se convertir. Ils n'aiment pas ça. Hein. Mais c'est le chemin que Dieu a préparé pour toi. Alors regardez, je poursuis. On avance. Et il dit ceci. Cet homme, Jésus, rencontra ce démoniaque, ce gadarénien. Et que fait-il? Il dit à cet homme. Cet homme, au verset 3, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Alors, regardez, il s'écria, au verset 7, d'une voix forte, « Qu'y a-t-il ? » Les démons se manifestent. « Entre moi et toi, Jésus. » Un dialogue surnaturel. Humainement, on ne comprend pas. Cet homme parle, mais en réalité, ce n'est pas lui qui parle, ce sont les démons. Ces choses que nous voyons sur les réseaux sociaux. Certains prophètes ou apôtres, c'est leur affaire devant Dieu, ils s'adressent aux démons. Les démons disent « Ah, ça fait des années, des siècles que je la tiens, que je le tiens. Et je ne veux pas sortir. » Alors il y a tout un combat filmé, comme si les choses saintes devaient être mises en pleine lumière comme ça. Ce n'est pas du spectacle, les choses de Dieu. Et c'est pour ça que les gens qui se donnent à Jésus et qui viennent ici, quelquefois on les prend, on les amène ici, dans le petit cagibi. Et quand il y a la manifestation, c'est entre Dieu, la personne et nous qui sommes là. Parce que c'est un choc quand même. Les gens qui tombent, qui roulent par terre, ils étaient là comme vous dans le bon sens, ils étaient normaux. Et d'un coup, le mauvais esprit se manifeste, on sent qu'ils font comme des serpents. Mes amis, c'est un choc. Il faut prendre soin de ces personnes. Tout de suite après. Et là, cet homme, il commence à avoir un dialogue, il parle à Jésus. Mais ce n'est pas lui qui parle. Et il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. La présence de Jésus a amené que cet homme, les mauvais esprits en lui s'agitaient. Vous savez que dans certaines églises, on ne chasse pas les démons. Les démons, on leur met la main comme ça, on dit ça va. Il dit oui, ça va, et toi, tu peux toujours me parler, mais je ne sors pas de ce corps. Mais il y a des assemblées comme celle-ci ou comme d'autres, les démons se sentent mal à l'aise. Parce que vous chantez, Satan est écrasé. Vous savez, vous pouvez lui dire ça, il dit, ah bon, ben je suis écrasé, d'accord. Et alors, je suis là. Mais quand vous dites, Jésus est élevé, alors là, il dit, ah, j'ai un problème. Et c'est là que ça change tout. Et quand vous dites, Jésus est élevé, vous le dites avec foi, et les gens se sentent mal à l'aise. Ils transpirent, ils ont envie d'aller aux toilettes. Pourquoi? Ce n'est pas eux, c'est les mauvais esprits en eux qui sont agités. Vous me suivez jusque-là? Alors nous poursuivons. Ne dormez pas, s'il vous plaît, pour ne pas louper la fin du film. Alors, il dit ceci, au verset 8, « Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. » Là, nous découvrons Jésus maître des éléments, la mer, le vent, et là, maître des esprits. Parce que avant que Jésus vienne dans un corps humain, il était Dieu. Il est l'empreinte même du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Alors vous pensez bien, lui qui a créé ce monde, les mauvais esprits, parce que Satan n'est pas devenu démon. Dieu ne l'a pas créé démon, il était ange. Il est devenu démon parce qu'il a fait ce choix. Et c'est comme toi cet après-midi, si tu veux rester enfant du diable, tu as le choix de changer cet après-midi. Tu as le choix de changer d'identité, de passer d'enfant du diable à enfant de Dieu. Et cela, il faut déjà le recevoir, il faut déjà croire en lui, et ensuite il te donne un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, frères et sœurs. Amis, je poursuis pour que tu comprennes bien où je veux t'emmener. Et là, Jésus devient, il se découvre en tant que maître des esprits. Alors tournez la page pour ceux dont la Bible demande à tourner la page. Et il lui demanda, le démon lui demanda quelque chose. Jésus lui demanda, il dit, quel est ton nom? Le monsieur répond, le démon à travers sa bouche répond, Légion. Alors on sait qu'une légion c'est entre 5 000 soldats. Il y avait à peu près 5 à 6 000 démons dans ce corps. Dans un corps. Alors il fallait pas que ça soit un apprenti sorcier, un marabout, ou une duseuse de bonne aventure, une cartomancienne qui pouvait régler cette histoire pour cet homme. Il fallait que ça soit le maître des esprits. J'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu, frères et sœurs. Alors le maître est là. Et il n'y a aucun démon qui a un pouvoir cet après-midi. Nous le lions au nom de Jésus-Christ. Et ils commencent à lâcher leur proie. Parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils sortent de là. Parce que la place est pour Jésus cet après-midi. Alors regardez, il dit, nous sommes plusieurs, non pas un seul, mais plusieurs. Alors Jésus avait en face de lui un seul homme, mais habité par plusieurs démons. Qui pouvait le discerner? Des fois nous sommes là, nous prions pour quelqu'un, nous disons esprit, et pourtant c'est plusieurs, nous devrions leur dire, vous les esprits qui êtes dans cette personne, vous sortez. C'est un manque de discernement. Et nous devrions leur dire, vous sortez. Pas, tu sors. Si tu t'adresses à un démon, il va s'en aller. Et les autres vont dire, oui, on est encore là. Mais si tu dis, vous sortez, ils sortent tous. Vous comprenez, frères et sœurs. Et là, Jésus dit, le démon lui donne, il n'avait pas besoin de lui donner la clé. Il dit, nous sommes plusieurs. Et il pria instamment, c'est-à-dire, s'il te plaît, ne nous sorte pas de ce corps, on est tellement bien, on le tient, on le martyrise, on le chérit, de temps en temps on lui dit tout va bien, et le lendemain on lui met un coup, on lui dit va te jeter contre les cailloux, fais-toi du mal, fais-toi des scarifications, suicide-toi, des pensées de suicide, allez va faire ceci, va voler, va mentir, va ceci. Manipulateur, il joue avec toi, tu es comme un objet dans ses mains. Il fait ce qu'il veut parce que tu es esclave. Mais si tu veux changer de maître, tu as la possibilité cet après-midi. Le maître est là. Tu peux dire à Satan, écoute, ça fait des années que tu me tiens, tu m'as dépouillé, j'ai donné tout mon argent au sorcier que tu tenais et qui me révélait des choses vraies, hein, mais c'était pour mieux me tenir. Mais c'est fini. Je décide de changer de maître. Je veux que ça soit Jésus qui soit mon maître. Alléluia! C'est un choix personnel. Non pas maman, papa, le frère, la sœur. C'est une démarche qui te soit personnelle, propre. Indépendamment d'un mouvement, tu rencontres une personne. Et regardez la suite, je poursuis pour finir. Il est dit que là, Jésus est maître des esprits. Et nous voyons la solution. Il le dit. Il dit ceci. Au verset 13, il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Suicide. C'était normalement la fin de cet homme. Les démons, quand ils habitent quelqu'un, ce n'est jamais pour lui dire « tu vas vivre éternellement », c'est pour emmener les gens à se suicider. C'est pour emmener les gens à violer ou à faire du mal, à tuer les gens. Vous regardez ce qui se passe, la petite jeune femme qui s'est suicidée,
Ça ne vous choque pas? Elle a 12, 13 ans. Elle met fin à sa vie parce qu'elle est harcelée. Elle est à bout. Elle est comme ça, au bout du précipice. Elle dit « Maman, personne n'entend. Papa, personne !» Et là, cet enfant, il dit « C'est un appel au secours. Je me suicide. » À 13 ans, mes amis, que Satan pousse une jeune fille à se suicider, nous devons nous lever et dire « Satan, tu es vaincu par Jésus. » Et Jésus est vainqueur. Et nous proclamons le nom de Jésus pour que les âmes puissent dire « Je donne mon cœur à Jésus. » Alors, regardez la suite. Cet homme, Jésus l'a libéré. L'histoire, vous le poursuivez, je synthétise. Au verset 5, chapitre 5, verset 25. Toujours de l'autre côté, regardez tout ce qui se passe. Maître des éléments, maître des mauvais esprits. Et là, nous rentrons que Jésus devient, il va devenir maître des maladies. Tu es malade, tu souffres dans ton corps. Les médecins disent que c'est une maladie incurable. Mais pour Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Amen. Là, nous montrons, là, nous allons voir que Jésus, il est le maître de toute maladie. Il guérit toute maladie. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il guérissait les malades. Monsieur, madame, avant de recevoir la guérison dont le maître Jésus est là, il va te le donner. Je le crois. Il faut que tu le reçois, lui, le maître des éléments, le maître qui a pouvoir sur les démons, le maître qui a pouvoir sur ta maladie. Et une maladie qui est dans l'homme, c'est le péché. Jésus a l'antidote pour libérer l'homme du péché. C'est le sang précieux de Jésus qui a un pouvoir inestimable de nettoyer, laver, purifier le cœur et la conscience de l'homme. Et là, Dieu sait combien la conscience de l'homme est chargée. Le sang de Jésus qu'il a versé à la croix, ce pouvoir de te purifier cet après-midi. J'espère que tu ne vas pas mépriser, balayer la grâce de Dieu et en remettant à l'année prochaine ou à une autre réunion, mais que cet après-midi, que le Saint-Esprit te pousse, te convainc de péché, de justice et de jugement. Regardez la suite. Il est le maître, il a tout pouvoir pour guérir toute maladie, et toute maladie incurable. Parce que cette femme, mes amis, elle avait fait tous les médecins de l'époque. Et elles arrivaient, le médecin dit, écoutez madame, on va vous faire une ordonnance, vous allez prendre de l'herbe comme ça, vous allez faire du thé, vous allez faire ceci. Et cette hémorragie va s'arrêter. Il y a des femmes, qu'ils perdent du sang comme ça, ils ne comprennent pas, bref. Mesdames, vous savez. Et là, les médecins appellent souvent endométriose. Ils donnent des noms, des fibromes, des kystes. Et là, cette femme avait un problème. Le sang, elle avait une maladie incurable pour rester propre. Et là, Jésus se présente. Regardez ce qui se passe. C'est juste en passant de l'autre côté, tout cela se passe. Vous voyez bien qu'il était important que Jésus aille de l'autre côté pour qu'il se passe toutes ces choses. Et Satan a voulu l'arrêter à travers la tempête. Eh bien, regardez, il est le maître de tout, il a tout pouvoir pour guérir toute maladie incurable qui dépasse le corps médical. C'est ce que j'ai noté. Parce que la Bible nous dit qu'elle a vu tous les médecins de l'époque et ça n'avait pas réglé son problème. Jésus arrive, regardez, verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang » Depuis 12 ans, elle souffrait de cela. Si tu es concerné cet après-midi, attends-toi, le maître, le divin médecin, celui qui a tout pouvoir sur toute maladie, est capable de te guérir cet après-midi. Alléluia. Il y a le cœur qui palpite, la tension, le diabète, c'est des maladies. On est obligé de prendre des cachets pour temporiser la tension, réguler la tension. On est obligé de prendre, se faire de l'insuline pour réguler le sucre. Tout ça, c'est des maladies qui nous emmènent tout qu'on fait si on n'a pas Jésus dans le tombeau. Vous me suivez? Et on a aussi quelquefois ces maladies, ces espèces de pustules. On appelle ça l'eczéma. Ça nous démange, ça nous pousse dessus. Mais je le crois,
Jésus cet après-midi est là, capable de guérir toute maladie. J'ai pas entendu, frères et sœurs. Oh, je ne suis pas fou. Dites-le-moi que je ne suis pas fou. Non, mais j'ai besoin de l'entendre. Hein? Je ne suis pas fou. Alléluia. Alors, regardez, je poursuis, on va s'arrêter. Il dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, bijoux en or, compte en banque, livret A, enfin, livret B, compte 1, compte 2. Elle avait tout liquidé parce qu'elle voulait justement compte d'épargne. Elle voulait être guérie. Mes amis, quand un malheureux, quand quelqu'un souffre et la personne cherche du secours, admettons les médecins vous disent, vous avez une maladie incurable, madame ou monsieur, on ne sait pas trop comment faire, mais voilà, il faut attendre à la grâce de Dieu. Bien souvent, le médecin te dit ça. Et là, vous avez le maître, je ne dirais pas le guérisseur, le maître de toute maladie. Et quand vous réalisez que le maître de toute maladie est présent, vous ne venez pas toucher un homme, vous ne venez pas toucher un frère, même quand il pose la main sur vous, mais vous venez pour que Jésus vous touche. Et vous venez avec une telle foi. Chaque pas qui vous amène à venir devant, c'est un pas de foi. Tu dis, Seigneur, je m'approche, je suis malade. Je viens pour être guéri. Je sais que tu es là. Touche-moi. Et quand l'homme de Dieu te touche, la guérison s'opère. J'ai pas entendu. Alléluia. On poursuit. On avance un peu. D'accord? Il dit ceci. Il dit, il est le maître. Et il dit, avant de parler, verset 27, elle voit toutes les éprouver aucun soulagement. La deuxième partie du verset 26. Il dit, elle dit cette femme, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, vous voyez, il faut toucher. Il faut faire un acte de foi. Je serai... Elle en avait ras-le-bol, elle en avait assez, elle était épuisée cette femme. Elle en avait marre de ce problème. Et si tu en as marre du péché, de faire tout le temps un mouvement perpétuel, si tu dis, Seigneur, j'en ai assez, je ne sais pas, je n'ai pas de solution, la solution, elle est là cet après-midi. Et il dit, elle a là, si je peux toucher. Au même instant, verset 28, la perte de sang s'arrêta au moment où elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle sentit dans son corps, quoi? Qu'elle était, mais normal, le maître est là. Il n'y a aucune maladie qui est plus forte que Jésus. Alors vous pensez bien, elle a fait un acte de foi, elle a touché, il y a une puissance qui est sortie de Jésus, puissance de guérison. Cette femme a été et guérie instantanément. Et là, nous voyons Jésus à pouvoir sur les éléments. La mer, le vent, les démons, là sur la maladie. Et là, nous voyons un peu plus loin, toujours de l'autre côté, Marc chapitre 5, une richesse dans cet évangile, dans ce chapitre. Chapitre 5, à partir du verset 24. Je l'ai dit, non? Non, attendez, j'ai noté. Nous trouvons la fille de Jaïrus. Au verset 21, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, l'autre bord, où une grande foule s'assembla près de lui. Ils étaient au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé, il vient avec un problème. Et là, nous allons découvrir Jésus et mettre sur la mort. Les éléments, les démons, la maladie et la mort. Il a vaincu la mort. La Bible nous dit que Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire à Dieu. Et là, nous constatons que Jésus, dans ce texte, il y a cet homme qui vient, ce responsable, et il lui dit, au verset 23, il lui adressa cette instance prière que tu peux faire cet après-midi. Ma petite fille est à l'extrémité, c'est-à-dire, elle est au bord du départ. Elle a une maladie, il y a quelque chose qui va l'emmener à la mort. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Cet homme ne demande pas grand-chose. Elle demande que Jésus vienne chez lui, met la main sur la petite fille, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure pour ceux qui sont malades et qui vont accepter Jésus, et afin que l'enfant soit guéri. Cet homme n'a pas douté une seconde. Pourquoi ? Parce qu'il avait affaire avec le Maître, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, celui qui contrôle la mort. Personne dans cette salle est capable de dire « je vais mourir » à moins que tu te suicides. Et ce n'est pas notre souhait. Mais tu n'as pas pouvoir de vie et de mort sur toi-même. C'est Jésus seul qui a ce pouvoir. Et là, cet homme se retrouve devant une situation. Jésus s'en alla avec lui, en chemin. Et c'est là qu'il fait la rencontre avec cette femme, avec une perte de sang. Mais nous retrouvons cette histoire, l'autre partie de l'histoire, au verset 35. Ne dormez pas, encore un petit peu, je termine. Comme il parlait encore, verset 35, survinrent de chez le chef de la synagogue, Jaïus, des gens qui dirent à cet homme, ta fille est morte, puisqu'elle était à l'extrême. Il lui dit, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? C'est-à-dire, pourquoi déranger Jésus? Ta fille est morte, c'est fini. Vous voyez, la mort, aucun homme n'est revenu à la mort si ce n'est que Lazare. Et ensuite, il est mort. Mais Jésus, quand il est revenu à la mort, plus jamais il mourra. Amen, frères et sœurs. Alors, celui qui est maître de la mort se trouve devant une situation qu'un être humain lui présente. Que fait-il? Regardez, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte, vous voyez, sans tenir compte de la nouvelle qu'avaient apporté ces personnes, Jésus dit, je ne me laisse pas troubler. Je ferme mes oreilles à ces paroles. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Et ensuite, il rajoute, voyez, il ne lui a pas fait une prédication, il lui a dit, ne t'inquiète pas, place ta confiance en moi. Voilà ce que le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance et tu verras ma gloire. Belle promesse. Et cet homme, regardez ce qu'il fait. Au verset 37, et Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef, ne crains pas, crois seulement. Verset 37, et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Toujours les mêmes, les trois compagnons, la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Jésus prend ces trois hommes pour des missions spéciales. Au verset 38, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule immense, parce que cet homme était connu, bruyante, qui faisait du bruit. Ça pleurait, il y avait les pleureuses, il y avait des gens qui étaient venus. Ah, Jaïrus, on est avec toi. Alors oui, les paroles ne peuvent pas emmener une consolation. Il n'y a que la présence de celui qui est maître de la mort qui amène une consolation. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Quand quelqu'un perd un être cher, c'est un déchirement. Il n'y a que Jésus qui peut consoler les cœurs. Il n'y a que lui qui peut consoler ton cœur de la perte d'un être cher cet après-midi et avec lequel tu vis encore. Dans tes pensées, dans tes nuits, tu sens sa présence, tu entends sa voix. En fait, ce n'est pas lui, c'est un démon. Il rentra. Au verset 39, et il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? Vous vous rendez compte? Il y a un mort, un constat de mort. Jésus arrive, il dit, mais pourquoi il y a autant de bruit dans cette maison? Pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas morte, et c'est vrai. Vous voyez le regard des hommes face à la mort, c'est la tristesse, la peine, l'angoisse, le manque de consolation. Et quand le maître arrive dans cet endroit, il dit, oh, il est là cet après-midi. Il dit, mais pourquoi tu pleures, ma fille? Pourquoi vous pleurez, monsieur? Je suis là. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il venait à mourir, il vivra toujours. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu vis encore avec un mort? Fais-moi confiance. Parce que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu, mais c'est les vivants. Alors Jésus lui dit, pour terminer la pensée, pourquoi pleurer? L'enfant n'est pas morte, elle... Voyez le langage de Jésus. Il dit, elle est en train de dormir. Et c'est normal qu'il leur dit, mais vous êtes arrêtés de faire du bruit, vous allez la réveiller. Elle est en train de dormir. Alors il leur dit, silence. Et regardez ce qu'il fait, Jésus. C'est extraordinaire. J'aime Jésus. Et il lui dit, elle dort. Et il se moquait de lui. Vous vous rendez compte? Alors ayant fait sortir tout le monde, il dit, sortez, vous sortez de là, allez, sortez. Il prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, Pierre, Jacques et Jean. Il rentra dans la pièce où était l'enfant. Il la saisit par la main. Donne-moi la main, frère. Et lui dit, Tabitha Koumi. Il parle en araméen, la langue du pays. Il dit, Tabitha Koumi. La traduction derrière qui signifie, parce que si on reste comme ça, vous avez dit, mais il parle en langue. Il dit, qui dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. C'est un ordre. Il dit, lève-toi, je te le dis. Et vous pensez, de la même façon qu'il était devant le tombeau de Lazare, il a dit, Lazare, tu sors? Non. Il a dit, Lazare, sors! Quand vous vous adressez à la mort, qui est la reine des épouvantes, qui a mis tous les hommes allongés, il fallait que ça soit cet homme-là, Jésus, qui arrive, qui dit, oh, sors! Laisse-la! La mort, tu sors! Elle revient à la vie! Elle ne faisait que dormir! Lève-toi! Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Alors, la petite fille, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à... Car elle avait 12 années. La petite qui s'est suicidée avait 13 ans. Et là, elle avait 12 ans. Et à nouveau, elle pouvait faire des projets, aller à l'école, prendre une vie normale. Ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille, je dis amen. Inclinons nos fronts.